Implantée à Bocouzé, Forma, résidence d'artistes, est un lieu de recherche et création artistique, ouvert aux disciplines des arts visuels et des écritures. Aujourd'hui, nous accueillons l'artiste plasticien Louis Jarry. Il vient tout juste d'achever son temps de résidence à Forma, en partenariat avec l'École supérieure d'art et de design TALM Angers. Artiste aux multiples facettes, Louis Jarry articule sa pratique artistique entre les costumes, la scénographie et la performance plastique et sonore. Il propose une véritable plongée à la croisée des univers médiévaux, du carnaval contemporain et de la recherche de nouvelles narrations. Il compose ainsi des objets singuliers, nés d'assemblages de matières et de techniques hybrides, du papier mâché au textile de récupération, en passant par la musique électronique et le conte. Empreint de ritualité et de poésie, Louis Jarry convoque des êtres exprimant la magie, la survivance du vivant et nos capacités de renouvellement dans des environnements en effondrement. Il a posé ses valises un mois et demi à Forma et poursuit ses recherches liées à sa pratique artistique. Bonjour Louis.
Bonjour.
Alors pour commencer, tu es fraîchement diplômé de l'École supérieure d'art et design de TALM Angers en 2025. Ton travail vient questionner les rites autour du carnaval. Je commence par une vaste question. Comment cette thématique est née en toi ?
Eh bien, en fait, d'un parcours de point en point, on va dire. Au départ, quand j'étais jeune, j'étais assez fasciné par les masques, assez naturellement. Et j'ai commencé à en acheter quelques-uns. Et puis, donc moi, je viens plutôt du domaine de l'art vivant, du domaine du théâtre. Et donc, le théâtre, c'était déjà quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans mon esthétique plastique. Et quand je suis arrivé à Nantes, donc avant de rentrer aux Beaux-Arts, j'ai préparé mon concours. Et je squattais beaucoup à l'École des Beaux-Arts de Nantes, où j'avais plusieurs amis. Et dans le cadre d'une manifestation contre les augmentations des frais de scolarité à l'époque, on avait réalisé des masques. Donc moi, finalement, c'était un peu mon premier travail plastique et ça a été un petit peu mon travail coup de cœur.
Un peu la révélation.
Ouais, ça a été un peu la révélation. Ouais. Et puis de fil en aiguille, en arrivant à l'école, je me suis orienté finalement vers le domaine de la performance et donc de la performance masquée. Et puis après, je suis venu agglomérer tout un tas d'éléments théoriques. Notamment, je pense particulièrement à un film qui s'appelle The Wicker Man, qui est un film de 1973 qui a été réalisé par Robert Hardy, si je ne me trompe pas.
Qu'on pourra retrouver dans les références du podcast.
Oui, et qui justement parle de tous ces univers-là.
Alors justement, tu travailles avec des matériaux dits simples d'une certaine manière, la terre, le carton, le textile, le végétal. Je trouve qu'il y a une approche très écologique aussi dans ta pratique. Comment abordes-tu justement ces matières dans ton travail autour du masque, mais sans doute pas que ?
Eh bien, moi, je n'ai pas fait d'école d'art au départ. Enfin, je n'ai pas fait de prépa, je n'ai pas fait de lycée artistique. Je suis arrivé un petit peu, au fil de l'eau de cette histoire, puisque je me suis mis à faire du théâtre contemporain qui m'a amené à ça. Mmh. Et l'idée, c'était d'avoir des matériaux qui sont faciles à utiliser déjà, des matériaux pour lesquels j'ai de l'appétence, mais surtout des matériaux qui sont assez accessibles au départ. Et c'est vrai que la terre, la sculpture, ça a été très accessible pour moi. Et puis l'idée, c'était surtout d'avoir des matériaux peu chers, réutilisable et modifiable en fonction de mes envies. Parce qu'un dessin, une fois qu'on a fait une touche, c'est assez difficile d'y revenir, alors que la terre, c'est beaucoup plus... Oui, on peut y revenir plus facilement.
Oui, c'est ça, ouais. Et justement, tu as un parcours avant les Beaux-Arts dans la biologie.
Oui.
Est-ce que ça te sert aujourd'hui ou à aborder les choses ou pas ?
Bah, c'est une grande question que je me pose moi-même de temps en temps. Après, franchement... pas tant que ça d'un point de vue vraiment, on va dire, des bases théoriques de la science. Oui. Après, ça ouvre un regard particulier
au
monde.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et ça m'a servi, par exemple, pour la résidence, sur la question des écoprints.
Oui.
Puisque donc, les écoprints, qui est une technique où on vient faire cuire des plantes sur du textile, c'est une technique où il y a beaucoup de processus, de la méthodologie qui est finalement, effectivement, assez proche de la biologie. Alors peut-être là-dessus, y a un petit peu de similitude. Et puis, sur certaines techniques, sur les bases, sur les solvants, je peux avoir des réflexes, mais sinon, pas tant que ça.
Finalement, ça fait un regard croisé scientifique et artistique.
Un petit peu, oui, on peut dire ça. Okay. Oui.
Que tu as peut-être développé par la suite, on ne sait pas. Dans le cadre de ton diplôme à l'École des Beaux-Arts, tu avais questionné une fable autour des chevaux de l'Apocalypse. Pendant ta résidence, j'ai eu la chance de voir naître un autre de tes personnages, Polichinelle. C'est à la fois grandiose, étonnant, marquant et très exigeant comme travail, je trouve. Tous ces personnages, au format bien souvent XXL, sont au service d'une esthétique très poétique à laquelle tu ajoutes parfois un habillage sonore. Cette alliance entre création plastique et sonore est-elle pour toi un tout ou une invitation au public à rentrer dans ton univers ?
Eh bien, c'est exactement ça.
Ben voilà, enfin, tout compris.
Et en fait, comme je le disais, moi au départ, je viens du monde de l'art vivant puisque moi, mes premières expériences, on va dire artistiques, ça a été quand j'étais enfant, j'habitais à un petit village qui s'appelle Clermont-Créant, près de La Flèche où donc on peut encore voir le Festival des Affranchis.
Oui.
Qui est donc un festival d'art vivant qui était à l'époque tourné un peu plus sur le théâtre et sur du théâtre plastique, du théâtre de grand format, de matériaux. Et en fait, ça a été mon premier contact. Et donc, c'est venu un peu infuser dans mon travail. Et puis, l'idée, c'était que je trouve que l'assemblage des techniques, venir faire un spectacle, c'est-à-dire venir mêler à la fois la question du costume, de la scénographie, de l'écriture, de l'histoire, de la mise en jeu et de la musique, ça permet plusieurs portes d'entrée et ça permet surtout d'avoir un effet spectaculaire qui, pour moi, est intéressant parce que ça ramène un public qui est différent de celui du public de l'art plastique en général.
Oui, 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 c'est vrai que c'est un à voir. J'ai déjà eu l'occasion de voir de tes performances et c'est vrai que il se passe quelque chose. En plus, tu mets vraiment dans des conditions. Souvent, c'est un peu sombre, mais pas que, puisqu'il y aura peut-être d'autres performances différentes. Mais on rentre vraiment dans un univers. Tu nous appelles, finalement, et il y a une espèce d'attraction par rapport à ton univers au sens large. Si je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'éco-print, ce mois et demi à format t'a permis aussi d'expérimenter justement cette nouvelle pratique. Je peux dire que le résultat est de toute beauté. Je trouve que cette technique correspond bien à révéler l'environnement aussi qui nous entoure, qui te met à l'écoute finalement de ce qui t'émeut d'une certaine manière. Et je trouve que ça te va bien, cette pratique. Et est-ce que tu as envie de la poursuivre, de l'affiner, de l'intégrer vraiment dans ton travail à venir ?
Eh bien, c'est une grande question. En fait, ça répond à une problématique qui est un petit peu particulière, l'éco-print au départ. C'est que je voulais pouvoir imprimer sur des textiles des motifs intéressants, des motifs végétaux, qui parlent donc effectivement, comme tu le disais, de l'environnement, mais aussi moi de mon rapport à la nature. Parce que j'ai toujours été très proche de la nature. J'ai une grand-mère qui vit à la campagne, venir récupérer, par exemple, faire du médicinal avec des plantes. C'est des choses que j'ai apprises assez jeune. Et puis surtout, je ne sais pas dessiner. Et vu que je ne sais pas dessiner, j'ai des difficultés à représenter des choses en 2D. Mmh. Et c'est vrai que l'éco-print a cet avantage finalement d'être quelque chose qui s'écrit tout seul avec la nature et moi-même.
Oui.
La seule chose où il faut être vigilant, et ça finalement j'y arrive assez bien, c'est sur la question de la méthodologie de l'éco-print.
D'où peut-être ta casquette de scientifique,
effectivement.
Où tu suis une méthode et un processus qui t'amène à aboutir ce travail. En tout cas, le résultat qu'on pourra sans doute voir prochainement, mais il est assez bluffant pour une première en plus. Je trouve que bravo.
Merci.
Justement, pendant cette résidence, il y a eu beaucoup de moments, de bons moments. C'est vrai que un mois et demi, c'est à la fois, ça peut être long, à la fois court. Il y a eu des rencontres, des ateliers autour du masque avec des enfants. La canicule qui s'est venue s'installer pendant cette période. Et bien sûr, la poursuite de tes recherches artistiques, l'exploration de l'éco-print notamment, mais pas que. Et la sortie de Polichinelle, le masque. Que retiens-tu finalement de ce temps de résidence qui était pour toi une première dans ton parcours de jeune artiste ?
Oui, effectivement, c'est ma première résidence. Et Je dirais que ce que j'en retiens surtout, enfin, c'est un petit peu difficile encore
oui,
maintenant.
Oui, c'est tout frais.
C'est, ouais, c'est tout frais. Je suis sorti de la résidence il y a une semaine et demie.
Oui.
Donc, c'est un petit peu...
Déjà.
Ouais. Et je pense que la résidence, ça permet finalement un peu naturellement de confirmer mes sensations sur la question plastique. Parce que ça... Enfin, en tout cas, de mon intérêt pour l'art, puisque ça permet d'avoir une bulle dans laquelle on peut y réfléchir plus sérieusement. On n'est pas pris dans des invectives ou dans des choses qui nous poussent à faire forcément la production, par exemple. Et c'est vrai que l'école des beaux-arts, et les écoles d'art en général, je pense, ont cette propension à un peu à nous forcer à produire, à nous forcer à nous exprimer, à nous exprimer et à nous expliquer pour pouvoir avancer sur notre propos. Mais pouvoir enfin avoir une pause là-dessus, ça permet de prendre vachement plus de recul sur ma production. Ouais.
Oui, c'est ça, t'accorder ce temps-là de réflexion et justement de pouvoir tester. Peut-être que l'éco-print, pour en revenir à ça, tu ne l'aurais peut-être pas testé dans d'autres contextes,
non.
Ou pas tout de suite. Et là, ça s'est naturellement mis en place assez simplement.
Mais l'éco-print, autant que la création du costume de polychinelle,
oui.
Parce que le masque, c'est un masque très volumineux.
Oui, alors justement. Le costume de polychinelle, quels sont les détails, comment tu pourrais nous le faire visualiser?
Alors polychinelle, c'est un grand nez,
ouais.
C'est un grand menton, c'est un grand chapeau. C'est quelque chose qui... en fait, je me suis inspiré du polychinelle des polychinelles de Tiepolo Fils, qui était... Donc, un peintre italien du 18e siècle, fin 18e, début 19e siècle, et qui représente effectivement un polychinelle blanc, un polychinelle donc avec ses particularités sur son grand nez, son grand menton, son grand chapeau, et avec un regard aussi qui est un peu particulier parce que, autant dans les polychinelles médiévaux, il y avait quelque chose de l'ordre d'une espèce de jouissance, d'un bien-être, d'une libération assez sauvage. Autant chez les polychinelles de Tiepolo, il y a une transformation qui est intéressante. Les polychinelles, ils viennent plus refléter une humanité donc italienne du XVIIIe siècle, avec ses problèmes, c'est-à-dire ses effondrements, ses crises internes très violentes. Et donc, ce polychinelle, il se retrouve un peu pris entre deux feux, entre cette existence qui est incroyable, puisque c'est cette espèce de... C'est la vie en tant que telle, et en même temps, la dureté de ce que ça implique. Donc, c'est à la fois un visage qui a envie de joie et qui, en même temps, est pris de tristesse.
Alors, est-ce que tu crois qu'on pourrait le voir prochainement? Je te tends la perche.
Oui. Alors, pour toutes les personnes qui souhaiteraient, normalement, le 12 septembre, s'il n'y a pas une seconde, troisième canicule qui nous frappe, nous ferons un concert avec une amie dont le nom de scène est Nuate pour une soirée à Beaucouzé.
Donc à Formar, à Beaucouzé, le 12 septembre. L'horaire est encore à définir, mais en tout cas vers 18h, quoi, à peu près.
À peu près.
Un bon rendez-vous pour ta sortie de résidence, vraiment, puisque celle qui était prévue a été annulée à cause de la canicule. Une dernière question. Est-ce que je t'ai demandé des lectures, des références, des choses qui t'inspirent, des auteurs, des autrices? Est-ce que tu as envie de nous partager certains de tes coups de cœur littéraires?
Eh bien, on va dire que là, j'ai ramené deux livres qui ont été assez fondateurs pour moi, même trois, un troisième que je n'ai pas. Je pense à Antonin Artaud, et notamment son livre « Pour en finir avec le jugement de Dieu », qui nous parle beaucoup de l'humanité postmoderne, et de ses failles et de ses sorties aussi. Un livre qui m'a beaucoup aiguillé sur la question du carnaval, c'est L'œuvre de François Rabelais, de Michael Bakhtin. Et un livre que je lis en ce moment et que je relis, qui est assez formidable, c'est un livre donc de Giorgio Agamben, un écrivain et philosophe italien, encore vivant, contemporain, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Polychinelle, ou Divertissement pour les jeunes gens en quatre actes, qui parle justement de la figure de Polychinelle au XVIIIe siècle, des Tiepolo de Polychinelle, et de sa capacité de régénération et de nous pouvoir nous faire vivre cette vie à côté de laquelle on passe, on va dire.
D'accord, pour vraiment vivre pleinement, finalement.
Exactement, oui.
En théorie, de sa vie.
En théorie.
Très bien. Donc, vivons pleinement. Eh bien, moi, j'ai envie de te dire, Louis, j'ai adoré ce mois et demi passé à format à tes côtés, à découvrir ton environnement artistique, ton approche également. Donc, je te souhaite une bonne route à toi. Et puis, pour découvrir en image le travail de Louis Jarry, vous pouvez le retrouver sur Instagram, louis-jarry. Et la résidence de Louis Jarry était soutenue par le département de Maine-et-Loire, la ville de Beaucouzet, la Drague, Pays de la Loire, Talmanger et WIT, le Café Culturel. Cette série d'entretiens des artistes accueillis à format est produite par Radio G. Un grand merci à eux pour cette carte blanche.